Quand on a des enfants, je pense que un des éléments qui nous stresse le plus, c'est de savoir comment leur assurer la meilleure éducation. Et finalement, la meilleure éducation, c'est pas forcément celle à laquelle on pense. Aujourd'hui, je reçois Sama Karaki, qui est une neuroscientifique, qui est la fondatrice du Social Brain Institute, qui a fait 10 ans de recherche dans le domaine de l'apprentissage et du comportement lié au stress. Et avec elle, on va parler de savoir comment on prend des bonnes décisions. C'est quoi la place de l'esprit critique? Comment ça se développe? C'est quoi la place de l'émotion? C'est quoi la place de la raison? C'est une discussion qui est hyper intéressante, évidemment, parce que ça va aller contre beaucoup de vos intuitions. Et vous allez comprendre pourquoi j'utilise ce mot de manière spécifique. Donc je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Sama.
Bonjour,
comment vas-tu aujourd'hui?
très bien.
Bon, on va parler d'esprit critique et d'éducation, mais avant de commencer, enfin, c'est le début, j'aimerais bien comprendre ce que c'est qu'un esprit critique et est-ce que c'est même possible de développer des opinions indépendantes?
Alors, l'esprit critique, on peut dire que c'est un esprit qui se regarde penser. En quelque sorte, nous avons des automatismes. Nous avons une pensée intuitive et l'esprit critique, c'est ce regard intérieur, ce critique intérieur qui regarde son intuition et qui fait un peu un rôle d'arbitre pour décider si je prends ce chemin intuitif ou si je le corrige par la pensée rationnelle. Donc c'est quelque chose si on peut dire le papa de la psychologie moderne, William James, il avait déjà parlé de deux systèmes de raisonnement, donc deux systèmes d'analyse. Il y en a un donc, qui est sans effort, donc intuitif, qui est du coup rapide, et un autre qui est coûteux en énergie, qui demande de l'effort et qui est plus lent. Et donc voilà, on peut se dire à quoi sert l'esprit critique si j'ai un système qui est rapide et qui n'est pas coûteux, pourquoi je ne l'utiliserais pas? En fait, c'est là où l'esprit critique a son rôle, c'est que cette intuition, cette connaissance de l'intérieur, d'ailleurs ça vient du romain intuire, c'est la connaissance knowledge and within, donc une connaissance de l'intérieur, ben elle se trompe. Et elle se trompe parce que, donc pour plusieurs raisons, on peut en citer quelques-uns. La première raison, c'est que bah, des gens, enfin, d'une façon plus moderne, aujourd'hui, on parle d'heuristique. Quand on parle d'intuition, c'est un système heuristique. Heuristique, ça vient d'où? Ça vient du grec ancien heurisko, qui veut dire je trouve. Ça veut dire que dans le monde des possibles, je sélectionne une façon de voir les choses, une façon intuitive. Donc, intuitivement, j'invente, je découvre. En fait, sauf que je le fais pas au hasard. Je sélectionne pas au hasard une solution donnée. Je vais sélectionner la solution la plus efficiente et la plus cohérente. Ça veut dire quoi? Je vais te donner un exemple chez l'enfant, par exemple. Ça c'est un exemple que Piaget, qui est un grand pédagogue, avait observé que les enfants, par exemple, si je leur montre des bâtons, une ligne de bâtons, un petit bâtonnet, comme ça, par exemple, je mets 5 bâtonnets rouges et 5 bâtonnets verts, et je demande à un enfant de 5 ans est-ce que c'est il y a plus de vert que de rouge? Donc il va dire non, la même chose, parce qu'à 5 ans, il est capable de compter 5. Alors maintenant, je prends deux rouges et je les mets à côté. Donc ça veut dire que la ligne rouge devient plus courte. C'est toujours le même nombre. Et je demande à l'enfant de 5 ans, à ton avis, qu'il y a plus de vert ou des rouges, il va dire vert. Ce qu'on appelle l'heuristique longueur-nombre. Pourquoi? Parce que l'enfant, il a, à l'école, on leur apprend que 3 canards, 4 canards, 5 canards, 6 canards, et plus la ligne est longue, plus il y a du nombre. Et donc, par recherche de cohérence de ce qu'il a déjà appris, il va associer la longueur au nombre. Alors, la cohérence, ça continue chez nous. Par exemple, on sait que sur les réseaux sociaux, on va tomber dans l'effet bulle, ce qui est un effet qui est très décrit. Pourquoi? Parce qu'on cherche à confirmer ce que nous avons déjà comme association, que nous avons déjà fait, association d'idées. Donc, par cette obsession de la cohérence, ben, nous allons rester dans nos certitudes. Et donc, nous allons un peu rejeter tout ce qui est ambigu, tout ce qui est différent. Donc, ça, c'est le premier piège de l'intuition. Un deuxième, c'est que intuitivement, on est dans le présent, dans le moment présent. Donc, par exemple, un exemple très simple, c'est la procrastination. Intuitivement, notre cerveau, il est fait pour servir le présent, ce qui est une très bonne, très bonne stratégie, parce que ce cerveau, c'est le cerveau chasseur-cueilleur, qui ne devait pas nécessairement se préoccuper du lendemain, hein, parce que ce qui se passe aujourd'hui, je ne suis pas sûre que le lendemain existe, alors je profite. Donc je suis câblée pour vouloir me gratifier instantanément. Du coup, je procrastine. Alors, une des raisons de la procrastination, c'est que le futur n'existe pas, en fait. Donc moi, quand moi, Sama, je procrastine quelque chose pour Sama, du week-end, je ne la connais pas. Ben, du coup, parce qu'elle n'existe pas. Et quand je regarde le cerveau de quelqu'un qui pense à lui-même dans le futur, ben, c'est la même activation que s'il pensait à quelqu'un d'autre. Donc, ce qui fait qu'en fait, le futur, on n'est pas câblé pour... Intuitivement, on n'est pas câblé pour le futur. C'est-à-dire, une conséquence très dangereuse de ça, c'est qu'on ne fait rien pour la planète, par exemple. C'est-à-dire, si je vous dis, dans 10 ans, il se passera ça. Et même si je vous dis, dans 2 ans, il se passera ça, c'est trop loin. Ça n'existe pas. Donc, pour que je puisse faire quelque chose pour mon avenir, il faut que je sorte de mon intuition. Il faut que, en quelque sorte, que je la contrôle, cette inhibition. Cette inhibition de l'intuition, c'est elle qui va me permettre de me projeter dans le futur. Troisième raison, il y en a plein hein, pour douter de l'intuition, mais troisième raison, ce serait qu'on est aussi câblé pour soi. Ça veut dire que, intuitivement, une partie dans notre cerveau qui s'active quand je pense à moi-même ou quand j'interprète les réalités de mon point de vue. Une autre partie qui s'active quand je suis en train d'interpréter le monde de toi. Ça veut dire que je me projette dans ta perspective. Et bien, ces deux parties sont en compétition. C'est-à-dire que c'est soit de ma perspective, soit de la tienne. Et en grande majorité des cas, parce que intuitivement, c'est ma perspective qui est moins coûteuse, qui est celle qui est connue, ben, je vais t'interpréter de ma propre perspective. Et le voyage que je vais faire de ma position égocentrique vers toi, c'est un voyage contre-intuitif. Et donc, ce qui fait qu'on n'a pas d'intuition, on n'a pas intuitivement de l'empathie pour les autres, et encore plus quand ils ne nous sont inconnus. Donc, on va avoir l'illusion de les comprendre, parce que intuitivement, on est en train de regarder le monde à travers le filtre de nos propres expériences.
Donc en fait, ce que tu décris, c'est que l'intuition, c'est un ensemble d'expériences passées sur lesquelles on se base pour prendre des décisions, c'est ça ou...
Oui. Alors, en grande majorité, tout ce que, par exemple, intuitivement, on marche, on a appris à marcher, intuitivement, on conduit un vélo, intuitivement, j'utilise le langage, intuitivement, je suis raciste ou pas, intuitivement, je vais des stéréotypes parce que mon intuition, c'est tout le système que j'ai déjà automatisé. Mais ça ne signifie pas qu'on n'est pas déjà câblé pour certains automatismes. Par exemple, un bébé de 10 mois, il est câblé pour ne pas aimer la différence. C'est-à-dire qu'il est en quelque sorte un peu raciste. Si vous montrez des images de personnes de couleur de peau noire à un enfant blanc, dont les parents sont blancs, donc dans son cercle de proches, il n'a pas vu cette couleur de peau, il va avoir une activation dans l'amygdale, qui est le centre qui s'active quand on est en erreur de prédiction négative, ou positive d'ailleurs, mais je veux dire qu'il est surpris, il n'est pas agréablement surpris. Et donc ça veut dire qu'on est câblé, pour une raison très très logique aussi, de préférer ce qui est familier. Et d'une manière contradictoire, on veut explorer le nouveau, mais dans le contexte familier. Donc, mais par contre, donc on peut dire que l'intuition, c'est l'ensemble de ce que nous avons comme automatisme de l'espèce et ce que nous avons appris à travers nos expériences et bien sûr ce que nous avons appris à travers la culture. Parce qu'il ne suffit, il ne suffit pas non plus du cadre familial. Toute la culture va nous inspirer un système intuitif dans lequel on justifie ce que j'avais cité comme besoin d'efficience, de cohérence, d'être ancré dans le présent et dans soi. Donc c'est contrairement à ce que le courant de développement personnel va inviter les gens à être dans le présent et à s'écouter, on est tout le temps dans le présent et on ne fait que s'écouter. Donc, si on l'a pensé, l'esprit critique serait d'arrêter un peu et peut-être écouter une autre voix dans soi-même, mais qui n'est pas la voix automatique, qui est la voix qui vient dire « et si ce n'est pas ça ?» Et si dans le monde du possible, il y aurait peut-être quelque chose à explorer plus lentement, avec beaucoup plus d'efforts, mais qui se rapprocherait de la complexité du monde.
Mais est-ce que c'est pas ça qui justifie justement tout ce qui est autour des fake news ? Parce que, quelque part, les personnes qui sont dans une forme de complotisme, ils se disent, mais en fait, l'information qu'on nous sert dans les médias traditionnels, c'est pas la vraie information, donc ils vont chercher de l'information. Alors peut-être que ce que tu vas me répondre, j'en sais rien, mais je serais intéressé, mais c'est justement, ils vont se conforter à travers des cercles, c'est-à-dire en allant chercher des vidéos YouTube ou en cliquant sur des liens de vidéos YouTube qu'ils ont déjà vus, et donc du coup, se conforter dans des cercles où ils se disent, je sais pas, anti-vax, anti-Europe, anti-ce que tu veux. Comment ça marche? Parce que du coup, ils sont dans la recherche et pourtant, ils vont dans des idées qui sont non rationnel, ouais, c'est ça.
Alors, avant de te répondre, je vais clarifier quelque chose, qu'on soit d'accord sur ce modèle, que donc j'ai mon système intuitif dans lequel je base tout ce que je sais sur le monde, tout ce que je pense sur le monde. J'ai un système du coup rationnel, qui lui, donc système un peu l'algorithme, ça veut dire les calculs, dans ce cas, on va supposer que ce système a la bonne réponse, la bonne décision rationnelle. Et puis, on va ajouter un troisième système. Que Olivier, les travaux de Olivier Houdet décrivent très bien dans un livre qui vient de publier. Donc il dit, peut-être il y a un troisième système, c'est un système d'inhibition de l'intuition. Ça veut dire c'est un système d'arbitrage qui s'active pour en fait décider si je vais dans celui-là ou dans celui-là. Et c'est un système qui est coûteux, du coup, parce que c'est un peu la police, si vous voulez, il faut les payer, quoi, pour dire tu vas dans ce sens ou dans ce sens. Et ça, ce système-là, eh ben, on va dire que ça, c'est la pensée critique. Ça veut dire cette capacité de se regarder décider, de se regarder décider. Alors, du coup, comme ça, logiquement, si je veux arriver à une meilleure réponse, alors j'ai deux façons d'y arriver. Soit j'ai ce système qui fonctionne bien, ça veut dire j'ai un système qui, quand je suis face à une information, qu'elle soit bonne ou fausse, quand je suis face à une information, il y a ce système d'arbitrage qui me dit « Ah, fais gaffe, peut-être que c'est pas vrai ». Alors, si j'ai la disponibilité mentale d'avoir ce système en action, je vais avoir au plus de chances de m'arrêter, de prendre ce recul et de dire « je ne vais pas là où mon intuition m'amène, je vais vérifier cette information ». Ça, ce qu'on demande souvent aux gens, quand on parle de fake news, ce qu'on demande aux gens souvent, c'est d'aller vérifier l'information. En tout cas, de douter, ce qu'on dit du tout, douter, et puis aller vérifier. Ce qu'on oublie, c'est que les gens sont fatigués. Les gens sont paumés. Et on l'est tous. Et que cette activité de doute et de vérification est coûteuse en énergie, mais aussi en temps. Et donc, alors, on n'a pas d'autre chose à faire. Je veux dire, je vais suggérer une autre façon de faire. Mais c'est compliqué de résister aux fake news. Et donc, admettons que j'ai une bonne posture de doute et que je vais prendre le temps, donc je ne suis pas très fatiguée, j'ai passé une très bonne journée, et que j'ai le luxe d'aller vérifier l'information. Ben en fait, même en vérifiant l'information, n'oublions pas que je vais chercher la cohérence, donc je vais tomber dans mon propre biais de confirmation, et je vais chercher l'information là où ça m'arrange. Et donc, comment je vérifie? Même quand je sais que je tombe dans ces biais, comment je peux vérifier encore, sans oublier que l'algorithme ne m'aide pas, parce qu'il ne me propose pas cet autre modèle mentaux, cet autre modèle de la réalité. Donc, il y a une autre façon d'interpréter notre attrait aux fake news. Bon, déjà, ça nous raconte une histoire, on a besoin d'histoire. Quand l'histoire, la vraie, elle est incertaine, elle est ambiguë, et nous avons un cerveau qui est une machine à prédiction qui peut vivre dans le risque, mais qui ne supporte pas de vivre dans l'incertitude. Ça, c'est tout le travail philosophique de l'assumer, cette incertitude. Mais l'état d'incertitude provoque dans le corps le même état que si je suis affamé, si je suis assoiffé, si je suis poursuivi par un prédateur. C'est-à-dire, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de retrouver une homéostasie. Homéostasie, c'est quoi? C'est, si t'es en manque de sucre, tu manges du sucre, tu retrouves ton homéostasie, c'est la quantité de sucre nécessaire pour alimenter tes cellules. Mais quand je suis dans l'incertitude, je suis en manque d'informations. Et j'ai besoin d'informations pour retrouver l'homéostasie informationnelle. Alors, si je ne l'ai pas, cette information, je vais quand même la trouver. Et c'est ça où les fake news vont me donner de quoi manger.
Et c'est aussi pour ça que les discours extrémistes fonctionnent, parce qu'en fait, c'est des discours extrêmement simplistes. Donc, à des questions extrêmement compliquées, ils ont des réponses simples. Et du coup, ça te permet d'atteindre cet effet, non?
Alors, c'est simple. Donc, ça ne demande pas beaucoup de dépenses pour de dépenses énergétiques pour que je les comprenne. Ça me donne une histoire. J'ai besoin d'histoire, ça me donne une histoire. Par contre, il y a quelque chose qui est très rarement analysé quand on parle de fake news. C'est qu'en fait, les informations que je crois, c'est pas par hasard que je les crois. C'est parce que, à la base, ça m'arrange de les croire. C'est-à-dire que il y a aussi où se placent mes valeurs. Alors, tu vois, c'est quand même beaucoup plus dangereux de croire à une fake news qui va dire que bah, les réfugiés violent les femmes. C'est beaucoup plus grave de croire ça que de croire à une fake news qui va dire qu'un réfugié a sauvé la vie de quelqu'un. Mmh. Les deux peuvent être fake news. Alors moi, je donne cet exemple parce que là où je me place dans mes valeurs, je trouverais moins de risques de croire à ce qu'un réfugié a sauvé la vie de quelqu'un qu'à croire à un réfugié parce que je sais qu'il y en a un qui va générer de l'empathie, l'autre qui va générer de la peur. Et donc, le danger des fake news, c'est qu'ils se placent dans une idéologie qui est déjà présente. Ils l'alimentent, certes. Mais ça ne vient pas du hasard. C'est pas par hasard que les mêmes personnes qui vont être racistes, ce sont les mêmes personnes qui vont croire aux fake news, qui vérifient et valident la nécessité de se débarrasser des étrangers. Mmh. Donc aussi, quand on parle de pensée critique, ce n'est pas juste que les individus développent une pensée critique envers leur propre pensée, mais c'est aussi de questionner qu'est-ce que nous avons dans notre intuition collective. Ça veut dire qu'est-ce que nous avons comme narrative, comme histoire collective. Parce que c'est cette histoire qu'on voudra valider. C'est cette histoire qu'on voudra confirmer. Et donc il y a un travail qui doit se passer dans les deux sens, et tout en se rappelant que c'est aussi un dilemme de disponibilité mentale. On n'a pas tous les mêmes privilèges de vérifier l'information. Mmh. Donc, comme ce système de gyrus frontal inférieur, cette petite partie de notre cerveau qui s'active pour dire « hop, hop, attention », eh ben, cette partie, elle s'exerce. Elle s'exerce et elle s'exerce dans l'éducation très tôt. Chez les enfants, très tôt, on peut muscler la capacité de passer d'un système intuitif à un système plus lent, plus rationnel. Et il y a plusieurs étapes, on peut aussi les élaborer. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont déjà intéressés dans les années 70, par exemple, qui s'intéressaient à ce contrôle inhibiteur. C'est-à-dire, par exemple, si je vous parle de quotient intellectuel ne s'intéresse pas du tout à ce contrôle inhibiteur. Le quotient intellectuel, le QI, va s'intéresser au système rationnel. Est-ce que tu as les bons algorithmes ? Et du coup, ça serait intéressant de quantifier, si comme on est obsédé par la quantification, de quantifier le contrôle inhibiteur. Du coup, il y a des chercheurs qui se sont intéressés, ils ont fait un test qu'on appelle le test de marshmallow. Alors, ils ont pris des enfants de 5-6 ans, c'est très mignon, si vous regardez sur YouTube, et du coup, on dit à l'enfant, voilà, ça c'est un premier marshmallow, si tu ne le manges pas, en quelque sorte, si tu arrives à te contrôler, on te donne un deuxième. Donc ça, c'était travaux de Walter Michel dans les années 70. Et il calcule la latence, ça veut dire le temps que l'enfant va prendre avant de céder à la tentation. Majoritairement, ils cèdent hein, tous. Mais par contre, il y en a qui patientent plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le temps de latence va être corrélé chez les mêmes enfants plus tard à leur réussite sociale, académique, même santé physique et santé mentale. Alors, c'était trop beau comme chiffre. Du coup, d'autres chercheurs ont essayé de reproduire. Parce que du coup, c'est une très mauvaise nouvelle, c'est que les enfants à 5 ans sont déjà conditionnés à réussir ou pas dans plusieurs domaines de leur vie. Et en plus, ça nourrissait l'idée que c'était quelque chose qui était organique. Ça veut dire qu'à 5 ans déjà, il y a quelque chose qui fait que dans le cerveau de ces enfants, il y a un système inhibiteur qui n'est plus. Donc en fait, en quelque sorte, le self-control qui va leur permettre d'accéder à la réussite. Alors ça, c'est toujours comme ça, la science, c'est-à-dire que les faits sont là, mais comment on les interprète et comment on les regarde. Donc d'autres chercheurs se sont penchés sur ces données. Et en fait, ils ont vu que non, c'est pas aussi simple que ça. C'est qu'en fait, ces enfants, ceux qui cèdent, il y a des éléments dans leur environnement qui font qu'il ne faut pas confiance à l'adulte, qui font qu'ils ont envie de sucre. Donc il y a quelque chose qui est... Alors, il y a une corrélation, mais ce n'est pas ça qui fait qu'ils ne réussissent pas, c'est qu'à la base, il n'y a pas les bonnes circonstances et que ce test n'est qu'un indicateur de ces circonstances. Mmh. Donc, en fait, en quelque sorte, on peut l'analyser de la même façon. Ça veut dire que le cerveau, il n'a pas beaucoup de ressources. L'inhibition demande des ressources, le contrôle demande des ressources. Et si je suis préoccupée émotionnellement, si l'enfant est préoccupé émotionnellement, il n'a pas de quoi payer. Daniel Levitin, il a un livre dans lequel il dit, ben, on dit « pay attention » en anglais. C'est vraiment ça. On paye l'attention. L'attention, elle est coûteuse. Et donc, pour que l'enfant puisse avoir ce discours interne en disant « non, attends, tu auras deux », ben ça, c'est coûteux. Et ça veut dire, c'est un indicateur que l'enfant n'est pas disponible. Ça veut dire que ça, c'est les circonstances. C'est-à-dire, pour développer l'esprit critique, il faut d'abord vérifier, est-ce que les gens sont disponibles? Est-ce qu'ils sont dans une sécurité émotionnelle? Et ça, on le sait, il y a beaucoup d'études aussi en économie qui vont montrer que, par exemple, les décisions qu'on prend au début du mois, ce n'est pas les mêmes décisions qu'on prend à la fin du mois, que les décisions que les agriculteurs vont prendre en début de saison, ce n'est pas la fin de saison, ce n'est pas si la saison est bonne et si elle est mauvaise. Donc, ça veut dire que plus on est préoccupé, moins bonnes seront nos décisions et donc moins bonne sera notre esprit critique.
Et tu me disais tout à l'heure que les enfants, ils n'ont pas une forte intuition. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Enfin, je comprends par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer, mais c'est intéressant, je pense, pour les personnes qui écoutent, de comprendre cette logique-là aussi.
Alors oui, je sais aussi que c'est très à la mode de dire que l'enfant sait tout, que l'enfant, en fait, l'enfant a quelque chose de plus intéressant de tout savoir, c'est qu'il ne sait pas grand-chose. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que comme il n'a pas beaucoup de construction sociale et culturelle, c'est-à-dire qu'il est en quelque sorte nouveau. Donc il est capable, enfin il n'est pas tout à fait nouveau, il est déjà, c'est quand même déjà pas mal fonctionnel à la naissance, et puis ça continue de se développer très 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 vite, à 4-6 ans, ça va, il se passe pas mal de choses. Par contre, il n'a pas encore les certitudes que nous avons adultes. Donc quand on regarde par exemple des enfants de 11 mois, on va regarder que leur cerveau va réagir à l'erreur de prédiction, c'est-à-dire s'ils ont vu quelque chose, ils prédisent quelque chose, et il se passe quelque chose de surprenant, hop, il réagit. C'est-à-dire, c'est, en fait, ils sont des très très bons scientifiques, on est moins bons scientifiques adultes, parce que nous, on reste accrochés à nos certitudes. C'est en ça que c'est intéressant, c'est que, alors, je donne un exemple, il n'y a pas très longtemps, j'étais à la Cité des Sciences avec mon fils, et il y avait un test qui s'appelle le test de Stroot, que ben, c'était un atelier de sciences qu'on faisait aux enfants. C'est quoi le test de Stroot? Il est très connu dans le milieu de coaching, tout le monde le fait. C'est que je te montre rouge écrit en rouge, bleu écrit en bleu, jaune écrit en jaune, et après je te montre, ben, il faut que tu me dises la couleur, et après j'écris rouge en bleu et bleu en vert, et en fait tu ne vas pas donner la bonne couleur, tu vas lire. Parce que le traitement langagier, il va être plus rapide que ton traitement visuel. En quelque sorte, ils vont être en compétition. Alors, ce qui est intéressant, c'est que mon fils ne lit pas. En tout cas, il ne lit pas très rapidement. Il lit son nom, mon prénom, tout ça. Et il a 5 ans. Donc, en fait, tous les autres enfants qui avaient 7 ans avaient des mauvaises réponses. Parce qu'ils avaient intuitivement, comme nous, on tombe dans le même, c'est-à-dire qu'ils savent lire. Et donc, comme ils savent lire, ça va rentrer en compétition. Donc, deux systèmes intuitifs qui rentrent en compétition et qui vont, du coup, empêcher la réponse rationnelle qui est de lire indépendamment de la couleur. Sauf mon fils. Mon fils, il donnait la bonne réponse parce qu'il ne sait pas lire. Donc, c'est à ça que quand je dis que les enfants, c'est intéressant, ils donnaient la bonne réponse parce qu'ils n'avaient pas investi dans une attention sélective. Ça veut dire que, et ça aussi d'ailleurs, c'est Libet, c'est le fondateur des premiers tests psychométriques, hein, qui avait fait les mêmes tests. Il a montré, plus on a investi dans un schéma mental, plus je vais avoir du mal à le rejeter. Parce que je suis engagée. Ça veut dire que, voilà, tant que mon fils ne sait pas lire, il a donné une bonne réponse. Et donc, si on présente très tôt aux enfants une autre façon de voir la culture, une autre façon de voir le monde, ben, en fait, ils ne sont pas accrochés à un modèle donné. Donc, on va avoir beaucoup plus de facilité à ce qu'ils nous dépassent dans leurs valeurs, à ce qu'ils nous dépassent dans leur créativité et à ce qu'ils nous dépassent dans leur esprit critique, parce qu'ils ne sont pas campés sur leur certitude comme nous, ça fait longtemps qu'on paye et qu'on investit et qu'on cherche à confirmer ce que nous avons dans nos automatismes.
Alors du coup, comment on fait pour justement développer cet esprit critique chez les enfants? Comment tu t'y prends? Parce que toi-même, en tant qu'adulte, t'es pris dans un système de croyances, ce que tu viens de décrire. Mais donc, généralement, c'est ce qu'on appelle l'éducation, c'est-à-dire que tu vas transmettre, de manière volontaire ou involontaire d'ailleurs, un système de croyance à ton enfant, ce qui peut être bien ou mal d'ailleurs, parce qu'il y a des systèmes de valeurs, voilà, ça peut être super aussi. Et comment tu fais pour lui permettre de raisonner et de pas justement réagir avec intuition?
Alors, déjà, il faut porter l'intérêt dans une classe, par exemple, un éducateur, une éducatrice, quand il pose une question. Et une bonne réponse, ben, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les mauvaises réponses. Pourquoi ? Parce que les mauvaises réponses ont beaucoup plus de chances de nous montrer le cheminement de la pensée, le processus de la pensée. Donc quand on célèbre les bonnes réponses, on est en train de célébrer l'algorithme. Quand on célèbre les erreurs, quand on cherche à expliciter une erreur, on est en train de célébrer l'automatisme, l'inhibition de l'automatisme, ça veut dire le contrôle inhibiteur. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la culture de dire « dis-moi ton erreur et explicite-la ». Donc ça, c'est quelque chose, dans certaines pédagogies alternatives, ça existe, on appelle ça le « inquiry-based learning » ou l'apprentissage par le questionnement et ou « penser à penser »,« think to think ». Donc c'est « je demande à l'enfant, à l'élève, à l'adolescent et même à l'adulte, d'expliciter son erreur ». D'ailleurs, c'est une stratégie très simple qui peut être incorporée dans un environnement d'éducation, c'est de dire aujourd'hui quelle est l'erreur la plus intéressante que nous avons eue. Donc en fait, quand on fait ça, on est en train de déplacer l'intérêt, le focus de l'enfant, mais aussi du nôtre, de la bonne réponse, la réponse rapide, la réponse qui ne nous donne rien en fait, qui ne nous apprend rien. Donc, on est en train de dire à l'enfant ou à l'adolescent que l'idée, ce n'est pas que tu donnes la bonne réponse, l'idée, c'est que tu la cherches. Donc en fait, du coup, si maintenant on réfléchit au système éducatif, on va voir que le système éducatif, c'est de réussir, mais ce n'est pas d'apprendre, ni de comprendre. À la base, c'est ça le but. Et donc, il y a quelque chose dans le cerveau qu'on appelle les émotions contrefactuelles. C'est elles qui guident ce contrôle inhibiteur. C'est quoi les émotions contrefactuelles ? Le doute, la curiosité et l'anticipation du regret. Ce qui fait que, avant de donner une réponse, j'anticipe que cette réponse peut être fausse et donc je prends plus de temps de traitement. Ça, c'est quelque chose qui doit être célébré. Comment on le célèbre ? Déjà, en arrêtant de dire bravo ou de dire t'es bête. Dans les deux sens, ça va pas. Si on regarde le cerveau d'un enfant à qui on vient de dire bravo, t'es bon en maths, on voit qu'il s'éteint, le cerveau. Oui, parce que justement, on a tourné le focus du processus d'apprentissage à lui, à son ego. Donc le cerveau n'est plus engagé dans le processus d'apprentissage, il est engagé dans la validation sociale. Et donc en fait, du coup, dans le vocabulaire qu'on utilise en tant que parent ou en tant qu'éducateur, il ne faut pas qu'on parle de l'ego, de la personne, il faut qu'on parle du processus. Moi, en tant qu'éducateur ou éducatrice, en tant que mère, et mon enfant, on est concentré sur l'objet de l'apprentissage, on n'est pas concentré sur l'ego, sur lui. Donc là, je suis en train de lui montrer qu'on est en train de construire un chantier et que des fois, on se trompe. Du coup, si tu me donnes la bonne réponse, j'ai aucune idée que tu as fait un bon cheminement. Même si tu me donnes la bonne réponse, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu es arrivé là. Et donc, quand on célèbre Albert Mockheimer, il appelle au doute comme façon de prendre des décisions, ça c'est quelque chose qu'on peut, d'autres chercheurs aussi le font, c'est quelque chose qu'on peut inculquer aux enfants. Ça veut dire, quand on regarde un enfant douter, quand on regarde un enfant montrer qu'il change d'avis, quand on regarde un enfant qui est en train de dire non, attends, ça il faut dire très bien, j'aime bien cette façon de faire parce que pas toi, c'est pas toi qui es brillant, toi qui es super fort, tout ça, ils font passer, surtout pas dire non plus que toi t'es belle, toi t'es forte, tout ça, aux filles et aux garçons. Donc enfin, dire j'aime bien cette façon de traiter l'information, j'aime bien l'attention que tu portes. Donc là, on est en train de lui montrer que nous aussi, ce qui importe pour nous en tant qu'éducateurs, ce n'est pas la bonne réponse, mais c'est le cheminement que tu fais pour y arriver. Il y a un livre qui est aussi sorti à cette rentrée et qui s'appelle, je ne suis pas sûre cette année, peut-être 2020, il s'appelle « Éduquer à l'incertitude ». Justement, éduquer à l'incertitude, je ne peux pas dire ça plus joliment. Et ça veut dire que, c'est Daniel Favre qui dit qu'il y a deux systèmes qui doivent être implémentés dans le système éducatif. Enfin, il parle de quatre, il y en a deux que je retiens. Le premier, c'est demander à l'enfant d'expliciter sa pensée. Et le deuxième, c'est de montrer à l'enfant que sa pensée est subjective. C'est-à-dire de lui faire rendre compte de sa subjectivité. Alors, quand je dis ça à l'enfant, mais nous aussi. Mais ça veut dire que, par exemple, le dernier livre de Kahneman et de Ciboney, il parle du bruit. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi très facilement on peut expliquer à l'enfant que tu sais, quand tu es triste ou quand tu es content, en fait, tu prends d'autres décisions. bah du coup, tu vois, on va attendre un peu que ça se calme parce que ça circule dans le corps. Il y a des choses très simples. Hein. Il y a des gens qui travaillent aussi, des chercheurs qui travaillent sur ce qu'on appelle les théories implicites de la connaissance et de l'intelligence, c'est-à-dire ce que l'enfant pense, surtout le préadolescent, de sa propre intelligence. Est-ce qu'il pense qu'il est bon en maths? Est-ce qu'il pense qu'il est bon en sport? Est-ce qu'il est bon, pense que c'est fixe? Ou est-ce qu'il pense que c'est un muscle qui grandit avec l'expérience? Et on montre que rien que de modifier cette théorie implicite sur soi, c'est-à-dire cette prophétie que je porte sur mes propres capacités, ben en fait, ça change l'engagement cérébral que l'enfant peut avoir, que l'adolescent peut avoir pour étudier. Donc je rappelle qu'il y a d'abord une circonstance sociale et culturelle qui met l'enfant dans une disposition qui lui permet d'avoir ce regard critique. Mmh. Mais au sein de cette culture, il faut aussi qu'on arrête de célébrer la vitesse. Qu'on arrête de célébrer le dogme de la bonne réponse qui arrive et du coup le prof il passe à autre chose, mais c'est pas le rôle de l'éducateur de pêcher la bonne réponse. Son rôle c'est d'enquêter sur les mauvaises. Donc voilà, après il y a quelque chose qui si on veut se dire qu'est-ce qui fait qu'un enfant peut aller loin, hein. Et enfin parce que l'intuition des fois c'est chouette. Mais dans un domaine très spécifique, je comprends pas, il y a des gens qui me disent des fois, moi je suis quelqu'un d'intuitif. Ça veut dire quoi? T'es intuitif dans quel domaine? Parce que tu peux pas avoir, je conçois, c'est-à-dire que quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps sur un sujet, on peut arriver à dire, moi j'ai une bonne intuition dans ce sujet. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup travaillé. Quand vous prenez Gary et Kasparov en 96, vous voyez Gary Kasparov, champion de l'échec, ou des échecs.
Je sais pas. D'échecs.
D'échecs, ok. Mm. Et les échecs.
Ouais.
Des échecs. et en fait, en 96, il fait un tournoi avec qui? Avec la machine, Deep Blue. Et en fait, bah, il passe, je pense, des jours. Et au bout de la 42e, parce que du coup, la 40e, il a mis sa montre dans sa poche, ce qui veut dire que c'est bientôt fini. Il a gagné. Il a gagné face à une machine qui arrive à traiter des millions de possibilités de déplacement des pions, alors que le cerveau humain, il peut traiter 3 déplacements par seconde. Et pourquoi il n'arrive pas à gagner? Justement parce que son intuition, elle est basée sur des milliers d'heures de pratique qui fait qu'en fait, ce qu'on appelle explosion combinatoire, c'est-à-dire à force de vivre des choses, à force d'explorer un domaine donné, je n'ai plus besoin d'aller voir tout ce qu'il y a dans le monde de possibles. Ce que l'ordinateur est en train de faire, la machine, elle est en train d'explorer toutes les possibilités. Bah lui, en fait, à force d'avoir, il a tellement automatisé qu'intuitivement, il va aller chercher la bonne réponse. Après, il a perdu en 96, à 97. Pourquoi? Parce que justement, c'était IBM, je crois. Et en fait, ils ont nourri la machine de plein de tournois passés. Tu vois, en fait, ils ont fait ce que lui a fait dans sa vie.
On appelle du machine learning.
Voilà. Donc, en fait, du coup, ils ont permis à la machine de développer autant d'explosions combinatoires que Gary Kasparov.
Donc, ça, c'est une invitation à avoir un maximum d'expérience dans plein de domaines différents. Parce que, du coup, ça te permet d'avoir une intuition. Enfin, si je suis ce que tu dis, moi, je considère que je suis une personne intuitive. Donc...
dans quel domaine? Dans
Mais
quel
voilà,
domaine?
D'où la question. Mais ça t'invite à avoir plein d'expériences et pas rejeter parce que tu connais pas. Parce qu'en fait, on a tendance à dire que tu sais, tu restes dans ta zone de confort, etc. Et là, ce que tu décris, c'est qu'il faut sortir de sa zone de confort, avoir un maximum d'expériences qui te permet d'avoir le plus d'expériences et donc le plus d'intuition, dans le sens où je vais avoir cette capacité à prendre des décisions rapidement, simplement parce que j'ai déjà expérimenté. C'est ça?
Alors, tout à l'heure, tout à fait, tout à l'heure, j'aime toujours faire enlever la responsabilité de l'individu. Je trouve qu'on a beaucoup de choses à gérer en tant qu'individu et que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace que le système dans lequel on vit nous amène à une réflexion riche, à une pensée plus complexe. Donc déjà, par exemple, prenons le système de la famille, c'est déjà pas mal pour un enfant. Je vous ai dit que le bébé, il est raciste. Ben en fait, ce qui est chouette, c'est que si le bébé a vu des visages de couleurs de peau différentes, il ne développe plus cette peur. Mmh. C'est-à-dire qu'il est possible que, rien qu'en baignant dans une culture plus complexe, plus riche, que le système intuitif, du coup, il soit plus riche et plus complexe. Donc nos certitudes, certes, elles vont être là, mais elles sont beaucoup plus proches de la réalité du monde, parce qu'elles prennent en compte. Alors, il faut toujours garder le doute, hein, mais je veux dire qu'elles sont moins dangereuses que de considérer que je ne fais confiance qu'aux gens qui me ressemblent. Un autre argument aussi sur l'importance de la culture. Aussi, tout à l'heure, je parlais du fait que l'empathie nécessite que je sorte de ma position qu'on appelle égocentrique, la position allocentrique, ça veut dire dans la tienne, ou dans une de quelqu'un que je ne connais pas. L'autre. Mmh. En fait, l'empathie, c'est un peu un ratio entre l'activation de ces deux zones, mais aussi c'est une question de flexibilité, un peu combien de souplesse j'ai pour basculer. Tu vois ? Parce que je vais toujours revenir à moi-même. En fait, en t'écoutant, si tu me racontes quelque chose, je vais toujours faire ce basculement de ma position. Plus j'ai une souplesse, plus je vais pas rester coincé comme un muscle raide en moi-même, et ni en toi aussi. Je vais pouvoir faire ce basculement. Et on se rend compte que, du coup, qu'on a beaucoup plus de mal à sortir de notre intuition, à se projeter dans l'autre. On parle, du coup, qu'on voit le monde, ce qu'Anaïs Nini dit, c'est qu'on voit le monde tel que nous sommes et pas tel qu'il est, tout ça. Mais cette vision, elle est eurocentrée, en quelque sorte, parce que quand on regarde des sociétés collectivistes, on va voir que, quand on enregistre dans le cerveau, on voit que ce basculement, il est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que dans ces cultures, j'ai beaucoup plus d'intérêt à te comprendre qu'à me comprendre. Parce que j'existe dans le collectif, il y a beaucoup plus... Donc, j'ai pas décidé, les gens ne se rendent pas compte de ça. Mais ils ne sont pas nés parce que je suis née en Chine ou que je suis née collectiviste. C'est qu'il y a quelque chose dans la culture, dans la fabrique des stéréotypes, dans la fabrique de ce qu'on pense être notre rôle social, qui me place en moins d'importance par rapport à l'autre. Du coup, la question c'est maintenant, est-ce que je dois moi-même déconstruire mon intuition ? Je peux. Mais est-ce qu'on ne doit pas aussi générer des modifications plus systémiques au niveau de la famille d'abord, parce que c'est le premier lieu, et ensuite au niveau de la société qui nous entoure, au niveau de l'école, au niveau des objectifs que nous nous fixons quand on réfléchit à ce qu'on veut valoriser chez les apprenants et les apprenantes, donc qui sont les enfants.
Et ça, c'est hyper intéressant, mais du coup, je me dis, y a aussi cette notion de plasticité du cerveau. Comment on peut... je serais intéressé que tu nous expliques ce que c'est. Et puis, comment on peut la développer chez un enfant? Ou alors, simplement, le cerveau d'un enfant, il est hyper plastique parce que, justement, il connaît rien.
Alors, la plasticité, c'est la capacité du cerveau à être modelé par les expériences, par le vécu. Donc avant, on avait des idées un peu trop, avec beaucoup de certitudes sur ce que c'est la plasticité, la neuroplasticité. Donc déjà, à la base, on pensait que c'était quelque chose qui n'arrivait que dans les premières années de la vie, et puis ça s'arrêtait. Donc maintenant, bonne nouvelle pour nous et pour nos parents même. C'est-à-dire la plasticité, elle est présente jusqu'à la fin de la vie. Par contre, ça devient de plus en plus coûteux. Tu peux le deviner, pourquoi ? Parce que ça fait très longtemps qu'on investit dans une façon de faire. Donc, en fait, il y a la loi de Hebb qui dit que deux neurones qui « fire together », qui s'activent ensemble, « wire together », se connectent. Donc, à chaque fois que je fais un lien, une association dans mon cerveau, je suis en train de faire presque une modification anatomique. Ça qui est très bon, je peux le voir dans le cerveau. Par exemple, si je commence à jouer un instrument de musique, au bout de 3 mois, je regarde, je n'ai pas la même représentation des mouvements de mes doigts. Si je suis en train de faire du violon ou du piano dans mon cerveau, ça modifie. De la même façon, si je me mets à penser autrement, si je fais l'exercice quotidien de changer d'avis, par exemple, c'est aussi beau ce qui va se passer dans le cerveau, comme si je suis en train d'apprendre à faire de la musique, parce que je suis en train, du coup, de muscler cette capacité de se remettre en question. Donc, la neuroplasticité, est-ce qu'elle est plus présente chez l'enfant ? Bien sûr, parce qu'entre 4 et 6 ans, il se passe un gros chantier d'élagage, qu'on appelle l'élagage. C'est-à-dire que le cerveau va se débarrasser de jusqu'à 80% des synapses, c'est quand même géant. Et ça on est programmé à peu près pour ça, mais il ne va pas se débarrasser de la même façon chez tous les enfants. Il va se débarrasser de ce qui n'a pas été utilisé. Donc, une autre loi, c'est « use it or lose it ». Si tu ne l'utilises pas, tu le perds. Parce que justement, il n'y a pas de place, il y a de l'efficience. Ça veut dire que plus tôt je commence, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le récupérer. On sait par exemple que si on n'a pas appris l'affection, si on n'a pas été touché enfant jusqu'à, je crois que deux ans. C'est-à-dire qu'à partir de 2 et 4, c'est récupérable. Mais si on n'a pas été touché pendant les premières 4 ans de la vie, c'est très compliqué de reconnecter les zones liées à l'affection, liées à la confiance en l'autre. Et donc, ça fait beaucoup de problèmes sociologiques et psychologiques à l'âge adulte. Par contre, on sait que voilà, si l'enfant était adopté avant deux ans, mais ça, c'est les études, c'est les orphelinats roumains, où on a découvert beaucoup d'orphelinats dans lesquels les enfants étaient complètement négligés. Et l'âge d'adoption montrait qu'à tel âge, je peux récupérer telle capacité à un autre âge. Ça, c'est vraiment des cas ultra spécifiques. Je veux dire, enfin, il n'y a pas d'enfant comme ça dans le placard, on ne le touche pas en général. Du coup, parce que des fois, on tend à catastrophiser. Regardez un cerveau qui a été traumatisé ou abusé, il est tout petit, tout ça. En fait, non. Non, on a quand même... la vie, elle est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est trop triste aussi de dire que si, enfant, on n'a pas vécu telle ou telle chose, on est déterminé pour devenir psychopathe ou sociopathe. Donc, il y a beaucoup de choses à faire en société pour récupérer les traumatismes de l'enfant. Ça ne nous détermine pas. C'est une autre chose qui me révolte contre certaines considérations de l'importance des expériences de l'enfance, ce qui est très important, mais ça ne nous détermine pas. Et on peut être guéri par le support social, et on peut aussi, on peut aussi se reconstruire, toujours dans le collectif. Donc, c'était quoi ta question ? Je me suis enflammée. Non, mais c'était est-ce que l'enfant il a plus de plasticité ? Donc en fait du coup voilà, il passe des tempêtes de remodelage dans le cerveau des enfants, des adolescents aussi. Et puis ça va se calmer un peu. Ça va se calmer, ça nous empêche pas, mais ça c'est si tu veux, ça c'est des tempêtes qui sont programmées. Ce qui fait que, par exemple, l'adolescent, il va avoir moins de contrôle inhibiteur. C'est ça qui fait qu'il va avoir un système de récompense plus activé, qui, du coup, ça le rend beaucoup plus preneur de risques et tout ça. Ça, c'est bon, on peut interpréter que c'est bien pour l'espèce qu'il y ait quand même une génération qui nous dit « Oh, qu'est-ce que vous faites là ? J'ai envie de revoir les choses. » Et puis, ça se calme un peu. En revanche, la neuroplasticité, elle est toujours présente tout au long de la vie et elle ne concerne pas que je conduis un vélo, un chauffeur de taxi, ça c'est un peu les études qui sont très bien décrites, que au bout d'un apprentissage procédural, je vais avoir une modification dans mon cerveau. Je peux aussi modifier, ça qui est magnifique, ça qui est la très bonne nouvelle, parce que j'en donnais beaucoup de mauvaises nouvelles, c'est qu'à force d'inhiber une fausse intuition, je peux, par la plasticité cérébrale, la changer. Je donne un exemple très simple, hein, quelque chose de quotidien. Par exemple, on se fixe une résolution, j'ai envie de faire du sport le matin. Premier jour, c'est pénible. Troisième jour, c'est pénible encore quand on y arrive. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement. Il ne faut pas annoncer au cerveau les grands changements. Il faut leur dire 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Mais imaginons que je me force, je contrôle mon intuition qui veut rester dans la chaleur du lit et je fais ça premier, deuxième. En fait, ce qui est magnifique, c'est qu'au bout d'un moment, l'intuition prend le relais et je commence à vouloir faire du sport. Ça veut dire que ça viendra de mon système de récompense lui-même désire cette chose. Donc ça veut dire que si, par exemple, pour parler de cet exemple de comportements, par exemple, qui sont plus justes pour l'environnement, ou de comportements qui sont plus inclusifs envers les autres, de comportements qui ne sont pas sexistes et tout ça, en fait, ce n'est pas... Au début, c'est pénible. Au début, c'est pénible parce que je suis en train d'aller contre la cohérence de ce que j'avais construit comme idée. Mais ce qui est chouette, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient moi-même. Ça devient mon intuition qui est en quelque sorte mon identité spontanée, qui ne me prend pas d'effort et donc qui du coup c'est la grâce quoi. Et en fait, je peux devenir cette chose. Et si je réalise cela, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au malaise, au premier malaise, à cette première dissonance, quand on n'est pas d'accord, quelque chose qui ne va pas. Donc je me dis non. Et aussi j'entends souvent, alors il y a une autre phrase qui vient avec, moi je suis quelqu'un d'intuitif, une autre genre de phrase que je ne comprends pas, c'est quand quelqu'un dit non, c'est pas moi, je le sens pas. C'est quoi moi ? On est des êtres en transformation. Et c'est-à-dire, en disant ça, des fois, on a raison de dire ça. Je veux dire, on ne va pas rentrer dans tous les murs possibles de la vie pour dire, ouais, là, j'ai compris que ça, c'était une bêtise. Non. Et par contre, à chaque fois qu'on s'entend dire c'est pas moi, à se dire c'est pas mon intuition actuelle. Et ce malaise que je suis en train de ressentir, il est tout à fait normal. Enfin, moi, je prends mon fils. À chaque fois qu'on va faire une nouvelle chose, il dit « j'aime pas ». Et du coup, à chaque fois, on a cette conversation sur le fait que tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas. Et que je te promets que si on y va et que tu expérimentes et que tu n'aimes pas, on arrête. Et la majorité des fois, après, enfin, quand je le vois qui a profité, je prends l'opportunité pour lui dire « mais t'as vu que du coup... » Et du coup, maintenant... Quand moi, des fois, je lui dis, je n'ai pas envie qu'on fasse ça parce que j'aime pas, parce que je veux pas. Donc, c'est lui qui me dit, mais tu ne sais pas, en fait. Mais du coup, ça veut dire que même à cet âge, philosophiquement, on dit que 7 ans, c'est l'âge de la raison. Il a 5 ans. Il a quand même, appris, peut-être qu'ils vont faire plaisir, mais en tout cas, il a déjà intégré que ce petit malaise que nous ressentons quand on est en train d'aller contre soi, ben, c'est une émotion contrefactuelle qui, au lieu que ça soit associé à une anxiété, elle peut être associée à une curiosité.
Et ça vaut la même chose pour la nourriture, j'imagine.
Ça veut dire les curiosités que nous pouvons avoir goûter.
Moi, goûter des choses, parce qu'on sait bien que les enfants, parfois, ils n'aiment pas manger, je ne sais pas, des légumes, pour prendre l'exemple bête et méchant, et qui vont, parce que, voilà, ils vont préférer manger du sucre ou des frites, ou je ne sais pas, peu importe. Ça joue aussi, c'est-à-dire qu'il faut aller leur faire goûter des choses et un peu, pas les forcer, mais il y a un peu de ça quand même.
Alors, c'est un très bon exemple parce qu'effectivement, si on veut dire, l'intuition veut du sucre parce que l'intuition veut la gratification instantanée. Mmh. Je veux dire, le sucre, je le prends, je suis bien, c'est la gratification instantanée. Alors que le légume, quand on veut présenter un légume à l'enfant, il ne trouve pas le goût bon tout de suite comme ça. Donc, quand on lui dit quoi ? Parce que c'est bon pour ta santé. Eh ben, rappelons que le futur n'existe pas. C'est quoi ? Mmh. Bon pour quelle santé ? Encore moins pour l'enfant. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est jouer. C'est jouer. Ça veut dire que là, on va manger quelque chose de dégueulasse. Et en fait, est-ce que tu penses avoir le courage de goûter cette chose ? Et là, en fait, ça c'est un peu stratégique que je fais avec mon fils. Pour qu'on, et en fait, du coup, des fois, il goûte, il me dit, mais non, ça va. Parce que, mais on se surprend. Ça veut dire que ce que je lui dis... Et ce que je dis aussi aux éducateurs quand on est dans des formations de neurosciences de l'éducation, c'est qu'il faut être honnête avec les enfants, les adolescents. Il faut leur dire, là, je vais vous expliquer quelque chose. Et ben, ça va être une tempête. Okay? Et ça va être vraiment l'orage. Et vous allez me détester. On va être fatigué. Et voilà. Alors, ce que je vous suggère, c'est qu'on prenne 2 minutes de bonne pause. Hein? C'est, on se détend. Et tout ça, par contre, après, on est ensemble et on va trouver une stratégie. Donc là, vous avez... pris en compte le fait que par exemple, les adolescents, où ils vont vivre quelque chose qui est pénible, mais vous leur dites, je sais, et je vous accompagne, et vous allez m'accompagner, ça va être difficile. Et vous m'arrêtez si vous trouvez que je ne suis pas claire. Il n'y a rien d'autre qui permet vraiment de mieux de fédérer les adolescents. Et des fois, avant, je donnais les formations moi-même et je voyais l'effet que ça fait quand je leur dis, par contre, là, il y a quelque chose que je vous expliquais, je ne suis pas sûre que ça va passer. Mais vous me dites... Et là, ils sont à fond parce que d'un coup, c'est devenu un jeu. Et apprendre par le jeu, c'est peut-être la manière la plus naturelle pour laquelle notre cerveau, il est câblé. Si on regarde le jeu, d'ailleurs, de toutes les espèces, tu vas voir qu'on joue en s'exerçant à la vie. Les chats vont jouer à chasser. Des araignées qui jouent à faire l'amour, mais c'est un jeu. C'est juste pour s'exercer. Et puis, ben, les enfants, ils jouent à quoi ? Les enfants humains, ils jouent à quoi ? Ils jouent à se cacher. Pourquoi ils se cachent ? Parce qu'en fait, on a toujours un cerveau chasseur-cueilleur. On a beaucoup d'intérêt à apprendre à se cacher. Et l'enfant, quand il se cache, il est super excité. Il ne fait pas de bruit. En fait, il est en train de s'exercer à se cacher d'un prédateur, d'un possible prédateur. C'est ça qui le rend super excité. C'est-à-dire que si on étudie ce moteur de jeu, de jeu incertain, hein, parce que si on donne à un enfant une voiture qui, quand tu appuies sur un truc, ça part vite, bon, c'est bien, c'est amusant, mais ça lui apprend rien, parce qu'elle a toutes les réponses. Par contre, quand on présente à l'enfant un jeu incertain, d'ailleurs, on n'a pas besoin de le présenter, parce que c'est la nature, tout simplement. Hein, la nature, c'est on l'appelle d'ailleurs un terrain vague. C'est très beau, terrain vague, parce que on est en train de l'éduquer à l'incertitude, parce que la nature, elle présente ce que l'art présente, de la même façon, ça veut dire des éléments familiers dans lesquels il se passe quelque chose de surprenant. Parce que dans la nature, tous les jours, la branche, elle n'est pas à sa place, la feuille n'a pas sa place, la pierre n'est pas à sa place. Donc l'enfant, du coup, il est confronté à l'incertitude du monde. Et c'est vraiment la façon la plus efficace pour qu'il puisse apprendre. On a un projet en Suisse sur le jeu libre, on le défend, je suis militante du jeu libre, mais pour toutes ces raisons, parce que je pense que le jeu libre dans lequel on investit les lieux publics aussi, parce que c'est aussi une démarche de récupération des lieux publics, toutes classes confondues, dans lequel on s'approprie la rue et dans laquelle on joue dans la rue et dans laquelle les enfants aussi créent des territoires géographiques et ils sont agents. Ils sont acteurs et actrices dans l'environnement dans lequel ils grandissent. Alors, je défends ça pour plusieurs raisons, mais ce qu'on réalise quand on fait les études, c'est que les enfants qui jouent toujours dans ces terrains super lisses, en quelque sorte, ils ne savent pas marcher dans la nature. C'est-à-dire qu'il y a des enfants aujourd'hui, en 2022, qui ne savent pas marcher dans la nature. Et qui n'aiment pas marcher dans la nature, du coup, parce qu'ils sont tout le temps dans des terrains où il ne se passe rien. Donc prenons ça et plaçons-le maintenant dans tous les contextes dans lesquels on a discuté. Ça veut dire que si il ne se passe rien socialement, si tout le monde autour de moi se comporte de la même façon, si je partage les mêmes certitudes que tout le monde, si à chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec mes certitudes, je zappe, de la même façon, ça veut dire que je ne suis pas prêt à marcher dans la vie. Parce que rien qui est escarpé, tout est lisse, on se ressemble tous, on fait les mêmes choses. Et du coup, voilà, ça c'est le danger des algorithmes des réseaux sociaux, mais l'enfant n'en est pas là. Mais ça c'est le danger de ne pas exposer l'enfant très tôt à des contextes d'incertitude dans lesquels tout n'est pas clair, dans lesquels on l'accompagne, on lui crée la sécurité, mais dans lesquels il n'y a pas de dogme. Ça veut dire que l'ambigu est bienvenu, l'erreur est bienvenue, changer d'avis est félicité, et où l'enfant sort de lui-même, parce que son but c'est pas de nous donner la bonne réponse pour qu'on lui dise bravo, mais son but c'est de nous, ça c'est la pédagogie active, ça veut dire que on est aussi activement engagé avec l'enfant, on n'est pas dans un rapport hiérarchique, pour qu'on étudie le cheminement. Et des fois, une erreur peut être beaucoup plus intéressante qu'une bonne réponse, parce qu'elle elle va nous démontrer. Je donne toujours cet exemple d'Albert Jacquard, que j'adore, c'est un généticien français, qui disait que l'intelligence... je pense qu'il voulait dire le quotient intellectuel, parce que l'intelligence telle que je la définirais, ça serait aussi de la même définition. Je copie cette définition d'ailleurs d'Olivier Houdet, qui la copie lui-même de Kant et d'André Gide, qui disent que c'est l'inhibition de l'automatisme, c'est la quantité d'incertitude qu'on est capable d'assumer. Et donc, du coup, Albert Jacquard disait que je ne comprends pas pourquoi on valorise l'intelligence dans le système éducatif. Et du coup, un journaliste lui posait une question. Elle lui disait, mais quand même, il y a quand même des élèves qui ont des réponses plus rapides que d'autres. C'est-à-dire qu'ils sont plus intelligents. Et là, lui, il dit, et à quoi ça sert? C'est magnifique. À quoi ça sert d'avoir une réponse rapide? Et pourquoi ce ne serait pas plus intéressant d'aller explorer des chemins plus longs? D'ailleurs, c'est comme ça aussi que Pierre Oléron, avant Kahneman, je ne sais pas si c'est avant, mais en tout cas, il a publié avant Kahneman, 71 ou 79, donc il avait parlé de circuit long et circuit court. Donc, ce qui est l'équivalent chez Kahneman du système 1, système de Kahneman, c'est le fondateur de la finance comportementale, les prix Nobel, qui a publié, voilà. Et du coup, circuit long et circuit court. Donc, circuit long, c'est circuit qui est un peu laborieux, dans lequel je prends le temps, j'explore. Et puis, circuit court, c'est le circuit intuitif qui, des fois, va me donner une bonne réponse, mais qui a beaucoup plus de chances de se tromper que le circuit long. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on l'utilise. Et je ne dis pas que je ne crois pas que l'intuition existe, hein, tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'elle existe. Si on est très fatigué, ce n'est pas grave si on se réchauffe dans notre zone de confort. Par contre, la posture, c'est de se dire il est possible que je suis en train de faire n'importe quoi.
Et en parlant d'intuition, il y a un sujet qui t'est cher aussi autour du talent. J'aimerais bien que tu nous en parles deux minutes, parce qu'effectivement, c'est intuitivement, on a l'impression que certaines personnes ont du talent. On dit, voilà, cette personne, c'est un incroyable tennisman ou une incroyable chanteuse ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, quelqu'un qui fait très bien de l'équitation.
Alors, de la même façon, hein, de la même façon que je donne beaucoup d'importance à la circonstance, aux circonstances, qu'on appelle ce sac à dos invisible que nous pouvons avoir, c'est-à-dire que ce qui nous permet de développer une capacité donnée, c'est beaucoup de circonstances. On aura de mal à aller, mais si on prend Mozart, ou si on prend Messi, ou si on prend tous ces gens qu'on se dit, mais le talent, on va voir qu'il y a beaucoup de circonstances dans leur vie qui leur ont permis de développer des capacités. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des avantages génétiques. Ce n'est pas ça qui fait le talent. Ce n'est pas ça qui fait qu'on arrive à quelque chose qui touche les autres. Je peux avoir un avantage génétique qui va me permettre, par exemple, de courir plus vite. Oui. Mais ce n'est pas ça qui va me permettre de mettre un but. Ou d'avoir une façon d'aborder la balle, comme le fait Zidane, par exemple.
Je suis grand et je ne suis pas très bon au basket. On m'a fait la remarque plein de fois.
Par contre, tu as un avantage génétique. Si jamais tu aurais voulu faire du basket, tu aurais eu un avantage génétique. Mais ça, c'est dans le monde physique. Donc, ce que je dis moi, c'est que comme les circonstances dans lesquelles on grandit ont beaucoup d'impact, tu viens de donner quelque chose par exemple qui montre que les circonstances nous donnent la disponibilité mentale pour qu'on aille vérifier que notre intuition elle est bonne ou fausse, et ça c'est la clé de la créativité. La créativité, c'est toujours un regard de contrainte sur ce que j'ai dans mon zone de confort qui me permet d'aller au-delà de cette zone de confort. Donc, ça veut dire qu'il me faut une disponibilité mentale. Donc, toute circonstance le permet. Après, on peut s'amuser à aller défricher toutes les biographies des grandes personnes talentueuses. Et on va voir qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers d'heures de pratique, mais pas n'importe quelle pratique. Ça qui est intéressant, parce que la pratique, elle peut être aussi intuitive. Au bout d'un moment, je sais faire quelque chose, je le fais d'une manière intuitive. C'est quand on casse cette intuition, ce qu'on appelle la pratique délibérée. La pratique délibérée, c'est quand je vais commencer à m'intéresser aux erreurs que je fais. C'est ça qui va faire que je vais développer beaucoup plus du coup de cette explosion combinatoire qui va au bout d'un moment faire que j'ai dans mon intuition tellement d'apprentissage, parce que j'y ai passé des milliers d'heures, qui va me permettre de me dépasser, de faire quelque chose d'extraordinaire que les autres vont regarder et vont dire « oh là là, le talent ». Donc c'est en fait en quelque sorte moi ce que je défends, je défends le faisable. C'est-à-dire qu'en fait, je ne m'intéresse pas à ce qu'il y a déjà dans notre bagage génétique parce que je suis engagée dans l'éducation, je suis engagée dans la justice sociale. Et pour moi, qu'est-ce que nous avons dans nos mains ? Nous avons les circonstances, nous avons les dispositifs d'apprentissage et aussi nous avons la liberté de considérer quelque chose est beau ou pas. Et ça, ce sont des considérations culturelles. C'est-à-dire que même ceux qu'on va considérer comme quelque chose de touchant, ben, ça peut ne pas l'être, hein, parce qu'on est quand même toujours très ethnocentré, ailleurs, et aussi ailleurs dans le temps. Parce que ça, le talent, quand il apparaît, on ne le juge pas de la même façon quand il apparaît, et puis 100 ans après. Et donc ça veut dire que quand on... c'est le principe même du talent que je remets en question. Je ne remets pas en question le fait qu'on peut faire des choses extraordinaires, d'ailleurs que je ne cherche pas à analyser parce que c'est mystérieux, c'est beau. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je vais être attirée. Parce qu'en fait, toute cette pratique délibérée, ça va me demander de la motivation. Donc, il faut que j'aime ça. Qu'est-ce qui fait que j'aime quelque chose ? Ce serait impossible d'aller regarder dans toute notre vie les petits moments qui nous ont fait... des petites personnes qui nous ont donné envie de faire quelque chose. Et c'est ça qui nous a rendus motivés pour aller nous exercer à fond. À 6 ans, Mozart, il avait fait 3500 heures de pratique. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont fait 3500 de pratique à 6 ans ? Par contre, est-ce qu'au bout d'un moment, bon déjà c'est exceptionnel, déjà ça lui donne des circonstances, parce que n'oublions pas que Léopold, je crois, le papa, Léopold Mozart, était quand même pas seulement quelqu'un qui donnait des cours de musique à son enfant, il était pédagogue de musique, et qu'à cette époque aussi, il y avait beaucoup d'enfants qui jouaient. Et par contre, ce qu'il a eu, il a eu des circonstances et un dispositif d'apprentissage exceptionnel qui lui ont du coup permis, au bout d'un moment, peut-être de trouver de l'appétence, qui lui a permis de faire de pratiques délibérées. Et c'est qu'après 20 ans que Mozart a commencé à faire quelque chose que les musicologues aujourd'hui considèrent comme étant du Mozart. Ça veut dire que, en fait, c'est ça fait plus que 16 ans de pratiques quotidiennes, quotidiennes. Et du coup, si on veut, où serait dans tout ça l'inné ? Ça veut dire, où serait dans tout ça ? Tout ça, c'est magique, hein ? Tout ça, c'est magique, c'est très, très beau. Mais ce que je défends, c'est que allons regarder ce qui s'est passé pour voir si on peut l'implémenter ailleurs ou pas. Parce que à quoi ça sert d'aller plonger nos enfants dans des parcours pour qu'ils deviennent excellents? Ça aussi, c'est une autre question culturelle à se poser. C'est pourquoi il faut qu'on soit excellent dans ces domaines-là. Est-ce qu'on peut pas aussi célébrer d'autres façons d'être excellent? Par exemple, mon enfant est excellent dans le doute. Il est un excellent douteur. Moi, mon enfant, il change d'avis. Je te raconte pas. Tous les jours, il change d'avis. Par exemple, voilà, on peut être fier de ces choses parce que c'est de ça dont on a besoin dans la société de certitude dans laquelle nous sommes.
J'aime beaucoup cette idée. En fait, c'est une ode à l'échec et une ode au doute, ce que tu fais.
C'est pas une ode à l'échec, c'est non. Une ode au processus. C'est une ode au processus qui peut mener à la réussite, qui peut mener à l'échec, qui peut mener au changement de chemin, de cheminement. C'est la poursuite même d'un outcome donné qui lève notre engagement du processus et qui le met dans le résultat final et donc qui le met dans une image dans laquelle on se projette comme étant heureux d'avoir réussi. Et ben en fait, voilà, ça fait quand même... on a quand même une expérience humaine passée qui nous montre que pas tant que ça, et qu'en fait, qu'il y a du plaisir. Mais il est ce plaisir dans la poursuite. D'ailleurs, je pense le système qu'on appelle système de récompense, c'est un système de désir, c'est un système de recherche de récompense. Donc on a un cerveau qui est même câblé de sorte à ce qu'on ait de l'appétit pour quelque chose, mais qui n'est pas câblé pour qu'on trouve la chose finalement bonne.
Et alors, où est-ce que tu places, enfin je me pose la question comme ça, je ne sais pas si tu vas avoir une réponse, mais où est-ce que tu places tout ce qu'on appelle le transgénérationnel? C'est-à-dire des mémoires de famille, des choses que tu fais, sans même savoir finalement que ça s'est passé dans ta famille. J'ai plusieurs exemples en tête. Et pourtant, tu reproduis sans avoir eu l'information originelle. Mais le fait est là, c'est que tu reproduis un système en transgénérationnel. Où est-ce que tu places ça?
Dans le domaine du mystère. Dans le domaine, pour moi, je n'ai aucune légitimité pour répondre à cette question parce que je n'y connais absolument rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a des études qui montrent qu'il y a des expériences que, par exemple, le père peut vivre. Je parle de rats. Hein, je parle de bras, de souris, et que si après, donc les bébés ne voient jamais le père, donc c'est-à-dire que c'est juste qu'il vient là, la souris est enceinte, après du coup il n'y a plus pas de rencontre avec le père, et que les enfants, les bébés, ils vont avoir, les petits, ils vont avoir des comportements qui sont liés à cette agression sociale qu'il a vécue, par exemple. D'ailleurs, je pense que ça saute une génération, on va le voir dans la génération d'après. Donc, on peut faire l'équivalent. Là, je parle de ce qui est fait en recherche, parce que c'est pour ça que je suis là. Et donc, du coup, on va se dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé d'épigénétique. Ça veut dire qu'il y a une méthylation, une forme de méthylation, une forme de modification qui s'est passée sur la chromatine ou sur l'ADN de ce papa qui a été, du coup, hérité. Et du coup, qui va se traduire par des réponses au stress, par des réactions, par une anxiété, par ce qu'on appelle une défaite sociale, c'est-à-dire que ils ne vont pas être des dominants, en quelque sorte, dans leur espèce. Alors ça, c'est des études qui sont, je pense, quand j'ai quitté la recherche, ça faisait 10 ans que ça se faisait, dans très peu de laboratoires dans le monde. Et donc, on en est là, chez le rat. Alors, est-ce que après, quelles sont mes croyances? Bon, je pense que ce n'est pas le sujet, ça intéresserait personne que je dise. J'ai des croyances qui vont dans tous les sens. Mais par contre, je ne pense pas que j'ai des éléments sérieux pour dire qu'il y ait. Par contre, ce que je peux dire, c'est que l'histoire que l'on connaît de nous-mêmes, alors tu as bien précisé que c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Par contre, si moi, je sais que mes ancêtres ont été torturés. Mais en fait, moi, ça fait pas très longtemps que j'ai appris des choses, par exemple, sur mes origines. Ça répond à certaines questions, parce que bien sûr, j'ai besoin de réponses, j'ai besoin d'histoire. Ça n'explique pas, en fait, mais je cherche à trouver une explication qui maintient la cohérence de ce que je suis ou qui me donne la motivation d'être autre chose. Donc ça, par contre, oui, je peux valider que si on... c'est un peu comme les fake news, hein, c'est-à-dire que s'il y a une histoire qui vient justifier ce que nous sommes, qui va nous donner de la valeur, qui va nous donner de la signification, que je suis quand même liée à des ancêtres qui, d'ailleurs, toujours sont très sages. La voix des ancêtres. En fait, du coup, oui, ça peut me donner une forme de sens, une forme de lien, une forme de pesanteur, en quelque sorte. C'est-à-dire que parce que quand même, on est très seul dans la vie. Et du coup, là, d'un coup, on se sent connecté, lié à des personnes qui peuvent pas du tout être méchantes, parce qu'elles sont mortes. Mmh. Et elles veillent sur nous, mais c'est très beau. Je veux dire, c'est aussi rassurant que la religion. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ou des énergies qui veillent sur nous. Donc là, je comprends le besoin. Par contre, voilà, comme je l'ai dit au début, je n'ai aucune explication à pourquoi certaines personnes vont avoir des réactions sans savoir d'où ils viennent, sachant que l'histoire est collective, c'est-à-dire je n'ai pas à savoir mon histoire, moi, sa mère, qu'est-ce qu'elle a fait ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait ma grand-mère. Je peux aussi, des fois, interpréter de par l'histoire de ma communauté que probablement on n'a pas vécu des choses très jojo il y a 100 ans.
Très bien. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
À quoi je veux ouvrir la porte, à quoi je veux claquer la porte.
Soit l'un, soit l'autre, soit les deux, comme tu veux.
Ouf, alors je veux claquer la porte à deux choses. Bon, la première, c'est de célébrer les certitudes et la confiance en soi, et puis plutôt trouver de la beauté dans ce petit break qu'on prend avant de dire ce qu'on pense, voire de dire j'ai réfléchi et je ne sais pas, c'est très bien. Parce que on est dans une période où tout le monde a des opinions, surtout. Donc c'est bien, mais dans sa tête. et puis la deuxième chose à laquelle je peux claquer la porte, c'est de se prendre trop au sérieux en tant qu'individu. Et les courants qui ramènent la santé mentale à l'individu, qui ramènent la pensée critique à l'individu, ce qui est une part individuelle dans tout ça, mais le travail le plus efficace et le travail qui nous mènera vraiment à quelque chose qui a du sens à long terme, c'est quand on réfléchit les systèmes sociaux dans lesquels on navigue. Et j'ai l'impression que, parce qu'on peut dire, la réponse que j'ai d'habitude, c'est « l'un n'empêche pas l'autre ». C'est-à-dire, je peux recycler chez moi, et puis toi, tu vas méditer auprès des grandes multinationales. Je dis, mais si, en fait. Si, quand tu fais plein de petits gestes, tu vas plus se sentir responsable. C'est-à-dire, tu te dis, moi, je recycle, moi, je prends mon vélo, je peux prendre un avion pour aller. tu peux, mais je veux dire, qu'on prétende pas que la lutte individuelle, avec cette idée que moi, je fais ce que je veux que le monde soit, très bien. Au moins, tu ne fais pas quelque chose de mal. Mais ce n'est pas ça qui va changer. Alors qu'on est dans certains systèmes, je pense que le système environnemental, mais aussi le système éducatif, sont des systèmes qui ont besoin d'un changement urgent. Et qu'en fait, ça sera beaucoup plus rapide de choper la tête du problème, donc d'agir dans un niveau systémique, plutôt que de se contenter des petits gestes que nous faisons dans notre petit coin individuel.
Parfait. Merci beaucoup, Sama.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !